Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. J'accueille cette semaine au micro d'In Power Nicolas Aignan, fondateur de l'entreprise Libérer la Bête, où il accompagne les entreprises pour les aider à exploiter leur plein potentiel. Ce qui m'intéresse chez Nicolas, c'est son approche de la vie assez dissonante de celle de la société dans laquelle on vit. Vous savez que j'aime déconstruire, et pour déconstruire, il faut affronter différents points de vue, différentes philosophies, afin de garder ce qui résonne le plus en nous. Dans cet épisode, Nicolas nous partage donc son parcours d'entrepreneur, et comment il a atteint la liberté qu'il a aujourd'hui. Il nous partage ses conseils de productivité et comment il parvient à atteindre l'état de flow au quotidien. Et surtout, il nous partage comment il a réussi à dégommer toutes ses peurs. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue. Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Nicolas Aignan. Bonjour Nicolas, bienvenue sur In Power.
Bonjour Louise, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir, j'ai hâte d'échanger avec toi. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder, qu'on n'a pas tellement abordé encore sur InPower, donc je suis ravie. Mais avant voilà, d'entrer dans les détails, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Il y a deux parties, il y a une partie plutôt visible, puis il y a une partie un peu moins visible. La partie la plus visible, c'est que je suis dirigeant d'une boîte qui s'appelle Libérer la Bête, qui est des boîtes innovantes en particulier. Je suis marié, je suis père de 3 enfants, j'ai 42 ans. Ça, c'est ce qui se voit. Et puis, ce qui se voit un petit peu moins, c'est que ça fait 10 ans que je me libère, on peut dire, une par une, hein, de toutes les peurs qui m'empêchent de vivre la vie qui me fait vibrer, quoi. Vraiment, qui est la vie qui m'appelle. Donc j'en ai fait disparaître pas mal, hein. J'ai fait disparaître la peur du jugement, la peur de déranger, la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle sur ce qui se passe dans ma boîte, etc. Et puis voilà, puis derrière chaque peur, en fait, il se passe un tel saut quantique dans ma vie, une espèce de décharge de bonheur, d'alignement, etc., que c'est assez addictif, et du coup je continue, voilà, une peur après l'autre.
Très intéressant comme démarche. Ouais, ça répond à ma question et je me demande comment t'es entré dans ce milieu-là, on va dire, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au développement personnel ?
Bonne question, parce que à l'origine, je suis sceptique du développement personnel. Moi, je viens d'une famille, d'un milieu où c'est assez tabou, en fait. C'est entre autres tabou parce qu'il y a une personne de ma famille qui est partie dans un groupe qu'on peut appeler une secte, hein, il y a 40 ans, quoi. Et du coup, c'était le diable absolu, quoi. De s'intéresser au travail sur soi, c'était le diable absolu. Et du coup, j'ai vécu, moi, les 25 premières années de ma vie, en vivant, j'en étais pas conscient, mais je vivais la vie que les autres attendaient de moi. Hein. Donc, je vivais la vie que mes parents attendaient de moi, je vivais la vie que mes amis attendaient de moi, que mes copines attendaient de moi, que mes collègues attendaient de moi, etc. Et puis, donc, j'avais un joli parcours, bien sûr, les rails, tout ça, bon élève, très belle école d'ingénieur et compagnie. Et puis à 25, 26 ans, je commençais à poser des choix qui correspondaient un peu plus à ce que j'avais dans les tripes. Entre autres, en décidant de me marier avec ma femme, hein, qui est artiste, qui était dans un squat à Paris à ce moment-là. Donc, c'était complètement à l'opposé des schémas de ma famille, etc. J'ai décidé de quitter mon job salarié, qui était un job plutôt hyper valorisant, etc., pour monter ma boîte. Et là, ça a été une sorte de chaos un peu partout, quoi. Donc, ça a été le chaos à l'extérieur, c'est-à-dire dans la relation avec mes amis, mes parents, etc. C'est parti complètement en vrille. Et à l'intérieur aussi, parce que je voyais que ça générait une quantité de peur de dingue, tous ces choix-là. Et donc, j'ai persévéré, c'est-à-dire j'ai posé ces choix malgré tout, mais c'était assez douloureux. Et j'ai un peu décidé de me dire, mais en fait, c'est hors de question qu'à chaque fois que je pose un choix qui me correspond pas mal, ce soit autant le bordel dans ma vie. Et donc, c'est quand même un peu si j'avais décidé d'aller creuser ce qui me rendait aussi sensible au regard des autres et d'aller voir ce qui existait, en fait, pour aller désinguer tout ça. Et donc, j'ai commencé assez timidement, quoi, vraiment situation par situation. Et puis, j'ai découvert des approches tellement puissantes que en fait, bah, ça a créé une espèce de cercle extrêmement vertueux, quoi. Et puis, ça m'a permis de faire péter les premières peurs. J'ai fait péter la peur du jugement. Enfin, faire péter la peur du jugement, ça veut dire qu'elle a disparu complètement, quoi. C'est pas que je l'ai apprivoisée, c'est qu'elle a disparu. Donc, c'est comme s'il y avait un mur de verre, et puis, 10 minutes plus tard, quoi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune résistance, quoi. Et donc, quand j'ai vu ce que ça me faisait, bah, j'ai été creusé encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin.
Bah, par exemple, si on prend l'exemple de la peur du jugement, Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es pris pour la dégommer ? Quelle a été un peu ta méthode ?
Je vais raconter ce que j'ai vécu et il faut prendre un tout petit peu de pincette avant d'en faire le parcours exemplaire à suivre, etc. Parce que c'est quand même que mon expérience, même si j'ai pas mal de recul. Déjà, j'ai pris conscience de cette peur-là, ce qui est quand même un vrai gros sujet, quoi. Pendant longtemps, j'ai vécu avec sans avoir conscience qu'en fait, ça me mettait dans un mode marionnette. Tu vois, c'est un mode marionnette, c'est quand on a l'impression d'être aux commandes de sa vie, tu vois, de décider de ce qui va nous arriver, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout nous qui décidons, c'est nos peurs, c'est nos croyances, c'est les comportements qu'on a hérités de notre famille, etc. Donc, j'ai déjà pris conscience de ce mode marionnette et puis je l'ai observé, tu vois, et sans me flageller pour autant, je dis ah ouais tiens, quand les gens te disent ça, bah ça te met en vrac. Quand les dans telle situation, bah, en fait, t'es complètement en panique et tu bugs total. Donc ça c'était une première partie. Et puis la deuxième partie, c'est même si je faisais pas le lien, je savais que je trimballais quelques casseroles familiales. Je savais que ma mère avait perdu un enfant entre mon frère, mon grand frère et moi. Je savais que ça sentait pas très très bon sur la manière avec laquelle elle avait perdu. Régulièrement, elle était en bad trip, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et j'en savais pas grand chose. C'était une espèce de secret. J'avais très peu d'infos là-dessus. Mais j'avais quand même la croyance que ça m'avait sans doute impacté d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je suis allé creuser les deux en parallèle. À coude un peu exploratoire, parce que du coup, moi, je suis pas très branché sur les psys. Ma femme avait pris de l'avance sur moi, elle était pas mal branchée avec des approches un peu plus perchées, d'énergéticiens, de médiums, de gens qui, vu de mon prisme d'ingénieur, étaient quand même dans un autre monde. Hein. Mais je suis quand même allé les voir. Et c'est des gens qui m'ont donné des clés de lecture. Ils lisaient comme dans un bouquin dans ma tête. Quoi. Du coup, ça m'a quand même un peu intrigué. Et j'ai été creuser ça. Du coup, j'ai été creuser, en gros, le trauma que j'avais pu vivre en remplaçant le frère qui avait été mort. J'ai été revivre ça dans des approches d'hypnose et des choses plus ou moins perchées. Et puis, de fil en aiguille, en fait, en combinant différentes techniques que je trouvais, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais sans doute, effectivement, c'était très lié à la peur du jugement et que je pouvais sans doute dissoudre ça. Et du coup, petit à petit, j'ai hacker tel ou tel événement, telle ou telle formation dans laquelle j'ai participé, et j'ai juste constaté que j'ai réussi. Alors, on peut rentrer un peu dans le détail, si tu le souhaites, hein, de exactement comment j'ai fait ça. Mais c'est ça, la vue d'avion, en fait. J'y suis allé à tâtons. Enfin, je pense que c'est ça qui est intéressant d'en retenir, c'est que j'ai observé ce qui se passait. Cette peur du jugement, je l'ai acceptée plutôt que de la mettre sous le tapis et d'essayer de la cacher. Et puis, j'ai aussi accepté un peu délibérément d'aller voir des zones d'ombre de mon histoire ou de celle de mes parents, sans trop savoir ce que j'allais trouver, mais en me disant, mais vraisemblablement, je trimballe un truc, et il serait peut-être bon d'aller y mettre un petit peu le nez, quoi. Donc c'est un peu exigeant, c'est pas facile, quoi. Y a des moments où c'est même douloureux. Mais par contre, aujourd'hui, avec le recul, je suis convaincu qu'à chaque fois qu'on fait ça, il en sort des trucs hallucinants. Quoi.
Ouais, ça répond à ma question, et tu nous dis que t'as fait du coup pas mal de formations, que t'as exploré pas mal de pistes. Moi, je serais curieuse de savoir peut-être déjà ce qui n'a pas marché pour toi, parce qu'on entend tellement de tout et de n'importe quoi aujourd'hui dans le développement personnel, que je trouve que voilà, ça peut être difficile de s'y retrouver, et bien sûr, de toute façon, je pense que ce qui a marché pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais voilà, ça peut donner quand même des pistes de réflexion et voir ce qui résonne ou pas pour les personnes qui nous écoutent.
Ouais, merci de poser la question comme ça, parce qu'effectivement, si ça m'a pris des années, en fait, toi, pour dissoudre la peur du jugement, ça m'a pris en tout 5 ans, quoi. La dernière peur que j'ai fait sauter, c'est la peur de perdre le contrôle, ça m'a pris 10 minutes. Ouais, donc, une fois qu'on sait comment faire, une fois qu'on sait où ça va, une fois qu'on connaît les méthodes, c'est juste, c'est plus le même monde, quoi. Enfin, c'est une vitesse dingue. Alors, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche? Ce qui se sait pas beaucoup, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert en cours de route, c'est qu'il existe des méthodes pour... Alors, avant ça, peut-être, c'est qu'en fait, on a tous vécu une tonne de traumas dans notre vie, hein, beaucoup dans notre enfance, et c'est pas tant l'événement, le trauma, c'est la manière avec laquelle on le vit. Donc, le fait de perdre son doudou, pour certains, ça va passer comme une lettre à la poste, et pour d'autres, ça va être vécu comme un trauma. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple un peu soft. Et puis évidemment, il y a des exemples beaucoup plus trash, hein, sur les agressions, etc., qui sont en fait beaucoup plus courantes que ce qu'on pense. Et donc ça, évidemment, c'est systématiquement vécu comme des traumas.
Ouais.
Il peut nous arriver des trucs dans le ventre de notre mère, entre autres des jumeaux perdus, c'est très courant, et on pourra en parler aussi si tu veux. Donc j'ai accepté que j'étais sans doute une pile de trauma. Ok. Et puis que j'allais prendre conscience de tel ou tel trauma, puis qu'il y en a que j'allais peut-être résoudre sans avoir besoin d'en prendre conscience. Bon. J'ai découvert, pour moi, qui dit trauma, jusqu'à il y a 10 ans, en fait, dans mon monde, dans mon espèce de système de croyances, pour aller résoudre un trauma, il fallait avoir un psy. Donc un psychologue, ou un psychiatre, ou un psychanalyste, etc. Il n'y avait que ça. Et ce que j'ai découvert en 10 ans, c'est que en fait, c'est une toute petite partie des solutions, ça. Et c'est d'ailleurs, dans mon monde, dans mes croyances, pas du tout les plus efficaces. J'ai découvert qu'il existait des méthodes, qu'il en existait pas mal, hein, c'est-à-dire plusieurs dizaines, qui permettent d'aller libérer le trauma, c'est-à-dire d'aller dissoudre ce qui s'est passé à ce moment-là, comme si ça n'avait pas existé, ou l'intégrer complètement, quoi, faire en sorte que ça n'ait plus d'effet aujourd'hui. Et c'est des méthodes qui prennent quelques heures, donc ça peut être quelques heures étalées sur quelques semaines ou quelques mois, mais c'est l'ordre de grandeur, quoi. C'est quelques heures ou quelques minutes, plutôt que quelques années, en fait, dans les approches psy plus conventionnelles. Et donc ça déjà, enfin c'est prendre conscience de ça, ça ouvre des caisses à outils qui sont dingues par rapport à ce que l'immense majorité des gens connaissent. Et là-dedans, effectivement, il y a des choses, il y a des approches qui restent relativement longues. Donc si on parle de, qui sont les approches les plus anciennes en fait, tu vois, le yoga, la méditation, etc. Ça fait partie des approches de libération qu'on appelle longues. C'est-à-dire que à force de passer des heures et des heures et des centaines d'heures et des milliers d'heures en fait à pratiquer. Oui, effectivement, ça permettra d'atteindre des états de libération qui sont comparables dans la littérature à ce qu'on appelle des éveils. Hein, donc, c'est des mots qu'on retrouve dans le yoga et la méditation. Mais c'est des technologies longues. Et j'appelle ça des technologies parce que c'est vraiment ça l'idée. Il y a des technologies beaucoup plus courtes qui ont été mises au point ces quelques dizaines de dernières années. Là aussi, c'est utile d'en avoir conscience, en fait. Donc, ça ne veut pas dire « faites pas du yoga et de méditation », ça veut dire si vous cherchez à vous libérer d'un trauma, si vous cherchez à dépasser des peurs, etc., la méditation et le yoga, ça marche, mais il faut avoir un peu de temps. Quoi. Voilà. Et par contre, il y a des approches qui sont beaucoup plus puissantes. Quelques exemples d'approches qui marchent très bien. Il y a des approches dans les approches rapides, il y a des approches par la tête, si je résume un petit peu, il y a des approches par le corps. Voilà, si les deux grandes catégories. Et dans ces approches par la tête, approches par le corps, il y a des approches sur lesquelles on a vraiment besoin de savoir ce qu'on va désamorcer. Donc le trauma qu'on a vécu, le truc qui a créé la peur ou le blocage. Il y a des approches sur lesquelles on n'a pas spécialement besoin de savoir. Ça va se faire sans que la tête ait besoin de comprendre. Et toutes ces méthodes n'ont pas accès au même trauma, donc ça dépend un peu des gens. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout essayé à peu près. Et puis j'ai bien vu que telle ou telle méthode marchait plus ou moins bien en fonction de tel ou tel sujet. Et puis à force de le faire et d'en faire, c'est de plus en plus rapide et c'est de plus en plus efficace.
J'ai une question par rapport à ça, parce que je pense que pas mal de gens seraient peut-être intéressés, tu vois, par explorer ces méthodes alternatives et voilà un peu moins conventionnelles. La grande question, c'est un peu comment tu trouves quelqu'un en qui avoir confiance et qui est compétent, parce que bah c'est vrai que du coup c'est généralement des professions hein, ou des expertises où il n'y a pas de diplôme, là où un médecin t'as quand même cette assurance là qui rassure. Et donc c'est vrai que personnellement, pour avoir essayé quelques approches alternatives, tu vois, aussi fort que j'ai envie d'y croire, j'ai jamais été fascinée, j'ai jamais eu de résultats absolument incroyables qui m'ont donné envie de poursuivre, tu vois. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être juste que j'ai pas trouvé la bonne personne, mais voilà, il n'y a pas tellement de... Enfin, à part par bouche à oreille, tu vois, je sais pas si t'as des conseils pour trouver un bon spécialiste.
Alors, avant les conseils pour trouver le bon spécialiste, j'ai besoin de désamorcer une posture dans laquelle... Donc il y a pas mal de gens, je témoigne de plus en plus, hein. J'ai fait tout ce travail-là avec ma femme beaucoup, et on a fait ça un peu en catimini dans notre coin pendant des années, et depuis que j'ai fait sauter complètement la peur de déranger les gens qui ne me connaissent pas, je témoigne beaucoup plus fort en fait. Avant j'avais littéralement peur de me faire brûler vif quoi, en parlant de ces trucs-là, et donc depuis que j'ai fait sauter cette peur-là, je témoigne. Du coup, il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent « Ah super, donne-moi le contact de ton médium, donne-moi le contact de ton énergéticien, donne-moi... » et je leur réponds, attention, il y a un certain état d'esprit dans lequel il faut aller voir ces personnes-là pour que ça marche, en fait. Et je constate que beaucoup de gens vont voir des personnes comme ça, plus ou moins perchées, en se disant, ah ça y est, j'ai trouvé mon sauveur. j'ai trouvé la personne qui va résoudre mes problèmes sans que j'aie rien à faire. Donc, je vais juste avoir besoin de payer 80 balles, 100 balles, 200 balles, 300 balles, 1000 balles, j'en sais rien, peu importe. Et hop, je vais lui raconter mes trucs. Et puis, c'est bon, elle va faire sa toutouille. Et tranquille, Emile, j'aurai rien à faire. Ben non, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est une posture qui s'appelle vraiment une posture de victime, en fait. Et de victime qui cherche un sauveur pour la sauver. C'est très courant. Hein. Moi, j'ai été pétri de cette posture-là pendant très longtemps. Et mettons qu'on est dans cette posture-là, on obtiendra des résultats assez anecdotiques. D'accord ? Donc, c'est premier disclaimer, si on veut, c'est accepter qu'il va falloir bosser. Et donc, ça ne va pas se faire la probabilité que ça se fasse en une séance, deux séances, trois séances est relativement faible. La probabilité qu'on ait des effets assez rapidement au bout de quelques séances est quand même assez forte. Il n'y a pas besoin d'années et d'années comme en psychanalyse. Ça demande aussi d'aller regarder les zones d'ombre, hein, d'aller regarder les trucs qu'on n'a pas envie de regarder, hein, et quel que soit le niveau de peur que ça puisse nous générer. Et puis, j'avais un autre élément qui est que ça ne marchera pas forcément à la première personne. Tu vois. Et du coup, il y aura sans doute besoin d'aller voir quelques personnes différentes. C'est comme si chacun de ces énergéticiens, de ces thérapeutes, etc., avait un ouvre-boîte qui permet de déceler une partie du problème, et pas forcément tout le problème. Et du coup, il y a des moments, effectivement, il faut aller voir plusieurs personnes qui chacune vont fragiliser un des aspects qu'on a besoin de faire sauter. Et puis, une fois qu'on aura été voir la troisième, clac, le travail de... collectif en fait de ces trois personnes sans que ce soit vraiment câblé d'avance, ça aura fonctionné. Voilà, donc faut avoir ce lâcher prise là. Moi, un de mes mentors américains parle de high intention, low attachment, donc intention maximum et attachement minimum au résultat. C'est comme ça que j'y vais en fait dans ces sessions là et donc je prends ce qu'il y a à prendre. Donc il y a des moments où c'est phénoménal, puis il y a des moments où je me dis bah non, là c'était. Non, en fait, là, non, il n'y avait rien. Et puis, soit c'est effectivement qu'il ne s'est rien passé, soit que je comprends parfois des années plus tard, en fait, ce qui s'est passé. Tu vois, il y a une personne. Quand j'ai commencé mon travail, j'ai contacté une personne qui lisait dans ma tête comme dans un livre, en tout cas pendant une période. Après, c'était moins pertinent. Et elle m'a dit, elle m'a dit deux trucs. Elle m'a dit, oh, toi, vraiment, je te vois dans l'éducation. Tu vois, j'étais jeune start-upper. Dit, je te vois dans l'éducation. Moi, éducation, du coup, l'image que j'avais, c'est d'être prof dans un collège, quoi. Puis, waouh, non, mais ça me fait pas du tout rêver, quoi. Non, enfin, il y en a sans doute plein qui sont très heureux en étant prof dans un collège, mais moi, en tout cas, c'était pas du tout mon trip, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, ben, cette personne-là, elle est complètement côté de la plaque, quoi. Elle a rien capté, quoi. Et quelques années plus tard, tu vois, mon métier, c'est d'être formateur. Ma passion, c'est d'être formateur. Ma zone de génie, c'est d'être formateur. Donc, effectivement, je suis dans l'éducation en plein, alors qu'à ce moment-là, c'était quand même assez peu crédible. Elle m'a dit que j'étais un défricheur. Alors là aussi, défricheur. Mais... Et oui, effectivement, enfin, c'est ce que je suis. Moi, sur toutes ces méthodes-là, je suis un défricheur. Alors, une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on trouve les bonnes personnes ? On les trouve par recommandation. On les trouve par recommandation. Et donc, on va écouter un ami ou quelqu'un comme moi qui a vécu des expériences dans lesquelles on se reconnaît. Et on se dit, ah ouais, tiens, là, ça résonne. Ce qu'il a vécu, son point de départ, là où il en est aujourd'hui... Ça m'appelle et ça me parle, quoi. Et cette personne-là, on va lui dire ce que tu as vécu, ça me parle. Moi, voilà ce que je vis. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander ? Et puis, on déroule la pelote, quoi. Et donc, cette personne en question, elle va recommander une personne et peut-être deux personnes. Et puis, on va aller les voir, ces personnes-là, puis on va voir ce qu'il y a à en tirer. Puis, on va prendre le temps de vivre ça un minimum. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on va rencontrer d'autres personnes qui auront vécu d'autres expériences parce qu'on commencera à en parler aussi de ce qu'on a vécu. Et du coup, ça ouvrira un petit peu la discussion autour de ça. Et de fil en aiguille, effectivement, on va se construire un réseau de personnes qui sont pertinentes et qui nous correspondent.
Est-ce que tu penses que ça marche pour tout, j'ai envie de dire ? Parce que, tu vois, là, ce qu'on dit, j'imagine qu'il y a des personnes qui doivent se dire « Oui, ok, c'est sympathique, ça peut marcher peut-être quand, je sais pas, tu es quelqu'un d'anxieux ou quand tu es un peu timide. » Je sais, pour avoir écouté, du coup, un de tes podcasts, que tu as parlé librement du fait qu'un de tes enfants était diagnostiqué autiste. Et que par ces différentes méthodes, aujourd'hui, il ne correspond plus à ce diagnostic et qu'il n'est plus considéré comme tel. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, peut-être pour montrer aussi l'ampleur de la profondeur du travail qui peut avoir lieu ?
Alors, je réponds d'abord sur ce que les personnes qui écoutent là peuvent se dire. Moi, ce que j'ai découvert là dans mes recherches, c'est qu'en fait, on est tous programmés pour résister au changement, qu'on le veuille ou non. En tant qu'être humain, on embarque tous un programme qui est fait pour nous empêcher de changer. Voilà, c'est un espèce de programme de survie très très primaire. Qu'on en soit conscient ou non, qu'on le veuille ou non, il existe, il est là chez tout le monde. Chez moi aussi, même après avoir bossé dessus pendant 10 ans, il sera toujours là. Ce programme, je lui ai donné un nom, c'est la petite voix. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un changement qui pointe son nez, j'entends ma petite voix à l'intérieur qui me dit « Oh là là, mais en fait, c'est pas fait pour toi. Mais oh là là, mais c'est dangereux. Oh là là, mais si c'était vrai, ça se saurait. Ou oh là là, mais toi, ton cas est différent. Du coup, c'est pas possible que ça marche, etc. » Donc là, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se dire si, est-ce qu'ils ont déjà entendu au moins une fois dans leur vie leur petite voix. Bon, la plupart du temps, en fait, on l'entend quasiment tous les jours, hein, voire tout le temps. Donc, tu vois, ces objections-là que tu mentionnais, s'il y en a parmi vous qui l'entendent, c'est vraiment de la petite, enfin c'est très 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 probable que ce soit de la petite voix ça. Donc juste observez-le, acceptez-le, et c'est pas forcément une raison suffisante pour couper l'écoute, parce que justement, elle aurait réussi son boulot la petite voix là, d'aller saboter le truc, en disant non non mais ce gars-là là, vraiment ça te concerne pas ce qu'il a raconté, vaut mieux pas écouter. Donc première remarque, attention à la petite voix. Deuxième remarque, est-ce que ça marche sur tout? Oui, de mon point de vue, ça marche sur tout, y compris des problèmes physiques, y compris des maladies, etc. Enfin, c'est ce qui paraît parfois assez étonnant. Hein. Pour peu qu'on accepte de lâcher prise un minimum. Hein. Donc je reviens un tout petit peu sur cette histoire de contrôle. Moi, je suis un ancien contrôlant pathologique, c'est-à-dire que je voulais tout contrôler dans ma vie, tout planifier, tout décider, fixer des objectifs, etc. Je ne suis pas un sportif de haut niveau, tu vois, je n'ai pas ce mindset-là de guerrier, etc. Mais par contre, vu ce que j'ai vécu dans mon enfance, etc., le fait d'avoir porté sur mes épaules mon frère mort et compagnie, j'ai eu besoin de contrôler énormément de choses dans ma vie pour pas partir complètement en sucette. C'était pas conscient, mais j'en ai pris conscience après. Et on est très nombreux, en fait. La plupart des gens, en fait, sont très très contrôlants. Et du coup, ça va nous amener ça à contrôler aussi ces libérations. Et donc, je connais des personnes qui sont passées à travers des process qui sont incroyablement puissants, et qui ont eu besoin de passer plusieurs fois parce qu'il fallait que le contrôle lâche, quoi. Il fallait qu'elles acceptent d'ouvrir la porte.
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut se décider ? Quand tu disais il faut accepter d'ouvrir la porte, je pense que le problème, voilà, pour étant contrôlante moi-même, je pense que c'est la frustration de se dire bah ouais, j'aimerais bien lâcher prise, mais en fait on a l'impression que qu'on n'y arrive pas quoi qu'on fasse, quoi. Et tu vois, est-ce que c'est juste voilà la pratique, comme tu disais, il faut le faire plusieurs fois et à un moment ça lâche, ou est-ce qu'on peut un peu quand même influer sur le résultat?
Oui, on peut influer sur le résultat, c'est juste que ce sera un petit peu plus long. D'accord, tu vois. Dans mon cas, la peur de perdre le contrôle, c'est une des dernières peurs que j'ai lâchées là dans mon parcours. Donc c'est pas la dernière parce que je vais encore en lâcher d'autres, hein. Mais elle est arrivée plutôt relativement tard, tu vois, dans le process. Ça m'a pas empêché d'en lâcher d'autres en cours de route. Par contre, j'étais quand même de plus en plus conscient qu'il y avait ce besoin de contrôler et ou cette peur de perdre le contrôle qui me ralentissait dans le process. Et du coup, ça m'amenait à chaque fois à être de plus en plus précis sur ce que j'essayais de faire péter. Tu vois, j'ai pas fait péter la peur du regard des autres dans l'absolu. J'ai fait péter la peur du regard de mes clients, dans un premier temps, parce que c'est par ça que ça me semblait plus juste de commencer. Puis j'ai fait péter la peur du regard de mes prospects dans le milieu pro. Puis ensuite, j'ai réussi à faire péter la peur du regard des gens qui me connaissent pas. Non, mais ça a été vraiment étape par étape. Avant ça, j'avais fait péter, en même temps que la peur de mes clients, j'ai fait péter la peur du regard de mes parents. Voilà. C'était un peu un bénéfice collatéral. Et tu vois, donc j'ai essayé d'aller trouver des angles d'attaque les plus précis possibles pour ne pas faire de révolution dans ma vie, parce qu'en fait, je sentais bien que ça ne marcherait pas, quoi. Mon besoin de contrôler, il ne l'aurait pas laissé passer.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est y aller, en fait, au plus... Enfin, c'est un peu une pierre, un pas après l'autre, quoi. C'est tu as pris ce que tu semblais prêt à faire, et ensuite, le reste en a découlé de par la confiance que tu avais gagnée en dégommant au fur et à mesure, quoi.
Ouais, c'est ça, faut comprendre que c'est vraiment un cercle très vertueux, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas libérer un de ces soins, un de ces traumas, et du coup libérer la peur qui va derrière, etc., c'est comme si tu récupérais un morceau de toi, tu récupères du coup un espèce de réservoir d'énergie qui était bloqué depuis des années, et ça te donne une puissance de feu pour l'étape d'après qui est juste dingue. C'est comme si tu passais au niveau d'après dans un jeu vidéo, quoi. T'as des super pouvoirs en plus, et... t'es plus la même personne. Et du coup, forcément, peut-être que quand je regarde le parcours que j'ai fait en 10 ans, Jamais j'aurais imaginé arriver à ce niveau de sérénité, de liberté, d'abondance, etc., dans lequel je suis aujourd'hui. Mais quand je regarde étape par étape, en fait, ça se tient et chaque étape était une marche assez accessible, quoi. C'était assez raisonnable. C'est juste que quand je vois l'escalier entier aujourd'hui, ça paraît. Enfin, moi, ça me paraît dingue, quoi. Et puis, je suis ravi de ce que j'ai vécu. Donc, dans le cas de mon fils, donc un exemple, effectivement, qui peut paraître un peu hors norme ou perché. Donc notre deuxième, il a eu dès 3 ans des syndromes assez marqués, hein, qui rentrent dans la sphère autistique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'il a su parler, en fait, il nous a dit très vite qu'il était malheureux. Et donc c'est un enfant de 3 ans qui te dit « je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux ». Il te dit ça du matin au soir, quoi, en se tapant la tête par terre. Et c'est un enfant... qui nous faisait des tempêtes émotionnelles, c'est-à-dire des crises de... Enfin, il partait complètement en sucette, quoi. 15 fois, 20 fois par jour pour quoi que ce soit. Donc, le fait que les enfants soient un peu sensibles au fait de casser le biscuit, le petit gâteau qu'ils sont en train de manger, c'est assez classique. Le fait qu'il y en ait 20 par jour de cette ampleur-là, que ce soit pas possible de mettre une chaussette sans que ce soit... ça me touche encore de parler tellement c'était dur, quoi. Donc mettre une chaussette, c'était un drame absolu, quoi. Tellement c'est insupportable pour lui, quoi. Et donc à force, on a décidé à un moment de partir en vacances, de partir en voyage, et on est parti en Thaïlande pendant 2 mois en se disant bon bah voilà, on part tous les 5, de toute façon c'est déjà assez compliqué là, notre vie à la maison, ça pourra pas être plus compliqué. Bon, grosse erreur, grosse erreur, parce que donc on savait pas vraiment ce qu'il vivait, ce qui se passait à l'intérieur, mais en partant 2 mois comme ça en voyage, on lui a coupé tous ses repères, etc. On n'avait pas encore vraiment fait le lien avec les syndromes autistiques, et en fait couper tous les liens quand il y a ces syndromes-là, c'est juste, enfin couper tous les repères quand il y a ces syndromes-là, c'est une torture en fait pour l'enfant. Et du coup ça a été 2 mois, mais c'était festival tout le temps. Et donc c'était des réactions complètement disproportionnées en permanence, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on s'est quand même dit, ah, là, je crois qu'il y a un sujet, il va falloir qu'on aille chercher de l'aide. Donc notre premier réflexe a été chercher de l'aide médicale dans le milieu conventionnel, donc des pédopsychiatres, etc., donc des gens spécialisés dans l'autisme. Ça a été assez lunaire ce qu'on a eu, donc ils ont fait passer, donc là, il avait 4-5 ans à ce moment-là, ils lui ont fait passer des tests de QI, alors que ça n'a pas vraiment de sens à 4-5 ans. Dans des protocoles, lui il avait jamais été à la crèche, il n'était pas scolarisé, etc. Donc c'était des protocoles qui lui passaient complètement au-dessus. Et donc conclusion, bah oui effectivement, il a des traits autistiques et bon, mais puis on ne sait pas trop quoi en faire, il faut attendre quelques années pour savoir ce que ça donne. Bon. Et puis à terme, si ça continue, il faudra sans doute le mettre sous médicament cet enfant, et voilà. Et donc nous ça nous convenait pas, du coup on allait chercher dans la sphère un peu plus perchée. Aller voir des énergéticiens, des thérapeutes qui nous ont dit une en particulier qui nous a dit ce genre de situation-là, ça sent quand même le jumeau perdu, ça sent la grossesse gemellaire. Et donc ça, nous, ça ne nous parlait pas du tout. À aucun moment dans les échographies, etc., il y avait eu de jumeaux, il n'y a pas de jumeaux dans ma famille, enfin, ni dans celle de ma femme, enfin, bref. Et puis on s'est quand même souvenu qu'il y avait une histoire d'énorme peur de fausse couche à quelques mois de ma femme. On se souvient exactement dans quelles conditions, etc. Ma femme était partie en week-end, et enfin, ça avait été extrêmement flippant. Hein. Et puis, il y avait une écho qui était prévue juste 2-3 jours plus tard. Du coup, en fait, l'échographie, tout montrait que ça allait bien. Du coup, l'échographe nous avait dit non, mais en fait, il s'est rien passé, quoi, ça peut arriver, etc. Donc, on avait complètement refermé le truc. Et là, rétrospectivement, c'était évident, en fait, qu'il y avait une fausse couche. Et que ma femme avait perdu cet enfant, du coup. Et donc, on en a parlé à notre fils. Et il nous a dit, donc on l'a expliqué, voilà, il y a une petite cacahuète qui était dans le ventre en même temps que toi et qui est partie. Et il nous a dit, du haut de ses 5 ans, qu'il voulait que son frère, sa sœur, soit là avec lui maintenant. Quand il nous dit, je veux qu'il soit avec moi maintenant. Pour un enfant qui parle très peu, c'était bouleversant, quoi. Juste après, il était capable de descendre l'escalier, ce qu'il était incapable de faire, quoi. Il buguait comme Rain Man. Chaque ce qui vient, j'ai beau l'avoir raconté plusieurs fois cet épisode, c'est à chaque fois hyper touchant en fait. De ce qu'on a fait pour cet enfant. Puisque donc même le fait qu'il en prenne conscience, même durant ses 4 ans, en fait, les crises émotionnelles ont réduit assez radicalement, instantanément. Quoi. Il en restait quand même. Et du coup, on a continué le travail, c'est-à-dire qu'on l'a aidé via des thérapeutes, des énergéticiens, à se libérer en fait de ce frère, à couper le lien. Et à couper certaines capacités du coup qu'il avait. Enfin, il avait une capacité de ressenti extrêmement développée, quoi, comme beaucoup d'enfants. Mais du coup, ça, on lui a permis de le mettre un peu en veilleuse le temps qu'il apprenne à maîtriser ça. Et là, effectivement, du coup, en quelques semaines, c'est devenu un enfant joyeux, riant, plus qu'une crise. C'est ouf.
Merci beaucoup, Nicolas, pour ce témoignage touchant et qui, je pense, était aussi un message d'espoir pour les personnes qui rencontrent peut-être des situations similaires ou qui ont connu des histoires de vie difficiles. Moi, je trouve ça vraiment beau, en tout cas, de me dire que vous avez tout fait pour pouvoir l'aider. Et je pense qu'en plus, c'est vrai que plus on le fait tôt, plus après, on a la possibilité de s'épanouir. Donc, vous lui avez vraiment donné cette chance-là. Et écoute, ça me fait une parfaite transition avec un sujet que je voulais aborder, qui est le fait que, tu l'as un peu mentionné, mais vos enfants, du coup, ne sont pas scolarisés dans le système scolaire. Vous faites l'éducation à la maison. Et ça, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à le faire et comment, en fait, réussir à mettre en place cette organisation-là alors que vous travaillez tous les deux avec ta femme, qu'ils n'ont pas forcément le même âge et que vous n'êtes pas prof. Donc voilà, beaucoup de questions aussi en une, mais...
Effectivement, là, ce qui me paraissait malin, c'est de raconter l'histoire qu'il y a derrière, parce que là aussi, le résultat, il paraît peut-être un peu inaccessible, alors que l'histoire, ça s'est vraiment fait étape par étape et ça s'est construit de façon hyper respectueuse, en fait, pour nous. L'histoire, c'est quoi? C'est que notre aîné, on l'a mis, donc il a 12 ans aujourd'hui, hein, on l'a mis à l'école, on l'a mis à la crèche, et puis on l'a mis en maternelle, et on a constaté que ça l'éteignait pas mal. En fait, c'est-à-dire que le soir, il revenait en soufflant, quoi, en parlant du travail qu'il avait dû faire. J'ai encore dû faire mon travail à un enfant de 4 ans, 5 ans. Quoi. Moi, dans mon monde, ce n'est pas possible, quoi, que mon fils revienne avec ce genre d'état d'esprit-là de l'école maternelle. Quoi. Et puis, on a constaté ce que j'appelle moi, de la violence ordinaire, c'est-à-dire que c'était considéré comme assez normal, en fait, le fait que les enfants se tapent dans la cour de création, qu'il y ait des insultes, même si c'était pas le 93, quoi, mais...
La baston du siècle,
mais c'était considéré comme normal, et puis, ils étaient 30, 40, 50 dans la cour, l'institutrice était là, vous savez, c'est des garçons. Moi, dans mon monde, dans mes valeurs, etc., c'est pas comme ça que j'ai envie que mon enfant grandisse, quoi. Et du coup, ça nous a un petit peu bousculé, ça. On avait des amis qui avaient déscolarisé leurs enfants, qu'on prenait pour des fous furieux quand ils avaient 4 enfants. On dit, ah ouais, alors ça, c'est bien un truc qu'on fera jamais, c'est ça. Et puis, du coup, ce deuxième est arrivé avec ses troubles autistiques. Et de toute façon, à 3 ans, on voyait bien que c'était pas complètement impensable de le scolariser, quoi. Il était pas du tout adapté à l'école, c'était pas possible, quoi. Et du coup, on s'est posé la question, hein. L'école n'était pas encore obligatoire à 3 ans à ce moment-là. Elle était obligatoire qu'à 6 ans. Enfin, l'instruction. Parce que l'école n'est pas obligatoire, hein. Ça fait partie des croyances. L'école n'est pas obligatoire, hein. C'est obligatoire d'instruire les enfants, mais c'est pas obligatoire que ce soit à l'école. Voilà. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Et du coup, on a creusé en fait cette piste de déscolarisation, parce qu'on voyait bien que ça cocherait les cases pour nos deux aînés. On n'avait pas encore notre troisième à ce moment-là. Et puis on s'est renseigné un peu plus et on a compris qu'en fait c'était pas un enfant est capable d'apprendre par passion. Extrêmement vite et qu'on n'est pas obligé de faire l'école pour qu'un enfant apprenne. Pour peu qu'on respecte ce qu'il anime, ce qu'il fait vibrer, etc., en fait, il apprend hyper vite, hyper bien et quasiment tout seul. Donc, j'en ai vu un documentaire là-dessus qui nous avait beaucoup parlé, qui s'appelle Être et devenir. Ça s'appelle la déscolarisation informelle, c'est-à-dire qu'on laisse les enfants se nourrir de tout ce qui les appelle. Et donc là, dans ces conditions-là, on s'est dit, ah ouais, ah, ça peut être cool de tenter l'expérience. C'est pas très engageant, on va faire ça un an, puis on verra bien. Donc on a annoncé ça joyeusement à mes parents, qui m'ont pris pour un fou, et c'était lunaire.
savais pas encore dégommer toutes les peurs à ce moment-là, mais c'était vraiment lunaire cet épisode. Et puis on l'a fait quand même. Et du coup, on a déscolarisé notre aîné, puis le second, il n'est pas allé à l'école du tout à ce moment-là. Et puis on a observé qu'on a laissé faire, on a nourri leur passion, donc ils sont passionnés de plein de trucs, de fossiles, de géologie, d'aller creuser dans les cailloux, etc. Du coup, on a nourri ça comme on a pu. On a embauché une personne pour nous aider, pas sur l'instruction, mais enfin, en gros une nounou, quoi. Mais on a essayé de trouver des nounous qui avaient un état d'esprit un peu...
Un peu gouvernante, quoi.
Ouais, plutôt nounou, quoi, parce que, enfin, elle était là quelques heures par jour, quatre jours par semaine, aller nourrir. Enfin, on a essayé de trouver quelqu'un qui était assez dynamique, quoi. Enfin, donc un peu plus mordante qu'une nounou de base. Et puis c'était cool. Puis on a continué comme ça, en fait, de fil en aiguille. Petit à petit, on a injecté un peu d'enseignement formel, c'est-à-dire qu'on leur a fait un peu des cours, quoi. Mais c'est 30 minutes par jour, les grosses journées, quoi. C'est ça l'ordre de grandeur. Hein. Et on a constaté qu'effectivement, un enfant, en tout cas nos enfants, c'est le recul qu'on a, pour peu qu'on respecte leur passion, leur élan et leur rythme, ils sont capables de faire des sauts quantiques d'apprentissage de dingue. En rien de temps, quoi. C'est-à-dire c'est des ordres de grandeur. En temps passé d'apprentissage, on est sur des ordres de grandeur de 10 ou de 100 par rapport à l'école, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Et puis voilà, donc c'est pas facile tous les jours. Il y a une année où on les a remis tous les trois à l'école parce que ça ne nous respectait plus. École assez standard, hein. Ça a eu des bons côtés aussi, parce que ça leur a permis de voir ce que c'était. Et du coup, après, ça leur a permis de choisir, en fait, s'ils voulaient aller à l'école ou s'ils préféraient rester apprendre à la maison, avec les droits et les devoirs que ça impliquait. Et on les a mis à mi-temps dans une structure Montessori pendant un an. Cette structure a dû fermer à cause des contraintes Covid, donc on les a repris à la maison complètement à ce moment-là. Et voilà, et de fil en aiguille, donc chaque année on se repose la question, est-ce qu'on continue ou pas, on leur repose la question, est-ce qu'on continue ou pas, c'est quoi votre choix, et puis en étant conscient de ce que ça implique, et puis on se nourrit d'énormément de ressources à droite à gauche, sur internet, enfin il y a une tonne en fait de ressources d'enseignement qui sont hyper bien foutues, qui sont géniales, et qui sont quasiment complètement inconnues des instituteurs et des profs, hein. Et qui permettent en fait qu'on fasse très peu de cours.
Non, mais en fait, je me dis c'est assez dingue parce que en fait, c'est vrai qu'on le fait par conformisme, par aussi le côté pratique que ça représente. Mais c'est vrai que ça, quand on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de harcèlement scolaire, quand on sait que voilà les profs se sentent débordés, moi je me pose toujours la question, est-ce que c'est encore un environnement vraiment sain pour un enfant et pour son développement aussi intellectuel? Après, forcément, il y a une question qui se pose, que je pense peut-être pas mal d'auditeurs et d'auditrices se posent, c'est est-ce que vous n'avez pas peur, quand il sera temps de trouver un travail, donc soit ils se mettent à leur compte, et en effet, ils n'ont peut-être pas ce souci-là, mais soit ils aient des manques, des lacunes, ou même des jugements, tu vois, de la part des personnes qui ont suivi un parcours plus conventionnel.
Ouais. Excellente question. Hein. Donc, il faut, je redis hein, que tout ce qu'on fait, ma femme et moi, là, on le fait à partir de notre système de croyance, hein, ce que j'appelle notre aquarium, qu'on a tous son propre aquarium et que je suis tout à fait à l'aise avec le fait que d'autres personnes n'aient pas du tout les mêmes croyances que nous et pas du tout les mêmes les intentions pour leurs enfants, les mêmes ambitions pour leurs enfants, etc. Donc, moi, dans mon aquarium, mon rôle de père, c'est de permettre à mes enfants de construire une estime d'eux-mêmes en béton. Et ça me fait limite parler d'en parler tellement c'est important pour moi. Et en fait, si je réussis ça, c'est bon, j'ai fait le job. Voilà. Quand je regarde, moi, de mon point de vue, hein, ce qu'il leur est transmis à l'école, il leur est transmis plein de trucs, mais pas grand-chose sur l'estime d'eux-mêmes. Il leur est même transmis cette injonction de plaire à un référent, de plaire à un adulte, de plaire à quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi, et de faire tout comme il faut pour obtenir une bonne note de cette personne-là. Pour moi, c'est complètement contraire, en fait, à la construction de l'estime de soi. Enfin, dans mon monde, hein, c'est pas compatible. Et moi, je vois que j'ai mis 10 ans à me défaire de cette injonction de faire plaisir à un référent, et le référent ayant été mes parents, puis mes profs, puis mes mentors, etc. Et je leur souhaite pas en fait d'avoir à bosser sur eux pendant 10 ans pour se défaire de cette injonction-là. Et du coup, dans mon monde, dans mes croyances, le fait de leur apprendre qu'ils sont capables d'apprendre tout et n'importe quoi, qu'ils sont capables d'être passionnés, que du moment qu'ils sont passionnés, en fait, ils vont trouver la solution Il n'y a juste aucun doute là-dessus. C'est mon job. Voilà. Et alors, c'est pas facile à faire. On réussit pas surtout. J'ai des doutes tout le temps en tant que, qu'adulte. Hein. Notre aîné, à 8 ans et demi, ne savait pas lire. Donc, pour un enfant, dans le monde normal, entre guillemets, qui ne sait pas lire à 8 ans et demi, ça, on s'est fait pourrir, quoi. On s'est fait pourrir par nos amis, on s'est fait pourrir par les parents, on s'est fait pourrir par tout le monde, en fait, parce que tu passes pour un parent en ligne, quoi. Mais quand même, il serait peut-être temps de lui apprendre sérieusement les choses, etc. Et à 8 ans et demi, il y a eu le déclic. Et ça veut dire qu'en quelques semaines, en fait, il s'est mis à lire des centaines de pages. En quelques mois, il lisait plus de 1000 pages par mois. Et donc, il est passé en quelques mois, en fait, du 1% de sa génération qui sait le moins bien lire au 1% de sa génération qui lit le plus, quoi. En quelques mois. Hein. Donc on a appris que ce soit, on avait la foi que ce soit quantique, ce genre de saut quantique était possible, et on a juste constaté que c'est vrai, enfin, ça existe. Quoi. C'est comme ça que ça se passe, en fait, quand on laisse un enfant apprendre relativement naturellement. De ce qu'on constate, hein, parce qu'ils ont que là, l'aîné à 12 ans, il est en équivalent 5e, on continue, parce qu'en fait, ça marche, quoi. Donc c'est pas parfait, mais ça marche quand même pas mal. Et de ce qu'on constate d'enfants plus âgés, donc qui ne sont pas nos enfants, mais qui ont fait ce parcours-là, en fait, ils s'intègrent la plupart du temps très très vite. S'ils ont besoin ou s'ils choisissent de revenir dans un parcours scolaire normal, pour la plupart, ils s'intègrent extrêmement vite. Parce qu'en fait, ils sont devenus des merdards, quoi, mais ultra des merdards.
Ouais.
Ça ne pose pas spécialement de problème. Et puis même pour les ambitions, entre guillemets, que j'ai pour lui, c'est peut-être un peu trash que je vais dire, hein, et ça va peut-être heurter certains qui nous écoutent, là, mais... Pour moi, l'école, enfin, de toute façon, ça a été conçu comme ça. Hein. L'école est une machine à créer des salariés. Historiquement, c'est ça. Hein. C'est comme ça que l'école a été construite telle qu'elle est aujourd'hui. Hein. Donc, je suis tout à fait à l'aise pour que plein de gens soient tout à fait heureux dans une vie de salarié. Mais dans mon aquarium à moi de croyance, je ne souhaite pas à mes enfants d'être salariés, hein, à aucun moment de leur vie. Parce que le chemin que j'ai fait me montre que il y a des raccourcis vers le bonheur et que le salariat pour moi, fait pas partie des raccourcis. Quoi. Et donc, tout ce que je leur souhaite, en fait, c'est de pas être formaté comme des salariés. Donc, effectivement, là-dessus, je pense qu'on n'est pas mauvais là. Hein.
Quels sont les raccourcis vers le bonheur pour toi ?
Dézinguer les peurs. Enfin, c'est peut-être un peu cash de dire comme ça, peut-être un peu réducteur, mais j'ai été très influencé par quelqu'un qui s'appelle André Charbonnier, qui a conçu une méthode pour dézinguer les peurs, qui s'appelle la méthode Charbonnier. Qui s'appelait la méthode Feston pendant un temps, c'est un morceau de sa méthode. Et ce qu'il dit, la baseline de son livre, c'est entre nous et le bonheur, il n'y a que nos peurs, ou un truc comme ça. Bon, quand j'ai lu le bouquin, quand j'ai lu la baseline, je me suis dit, ok, peut-être. Et 10 ans plus tard, ça me paraît assez vrai, quoi. Enfin, entre nous et le bonheur, il y a nos peurs, et basta, il n'y a rien d'autre. Quoi. Donc, les raccourcis que j'ai expérimentés sur le bonheur, c'est le fait d'aller mettre les peurs dans le viseur, les unes après les autres, et de les dézinguer par tous les moyens possibles. Enfin, dézinguer, c'est un mot très guerrier qui est en fait pas respectueux, parce que c'est pas ça qui se passe, c'est de les intégrer, les apprivoiser, mais en fait de les dissoudre, c'est ça pour moi le mot le plus juste, quoi, par tous les moyens possibles. Et donc, c'est ce que j'ai fait artisanalement au début, puisque c'est ce que je fais maintenant pour moi, de façon quasiment industrielle. Hein. Et je vois à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'ai une peur qui disparaît, ce que je récupère derrière, c'est dingue. Enfin, c'est un saut quantique de bonheur. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Quoi. C'est même quasiment impossible, une fois qu'une peur est dissoute, de se souvenir du genre de comportement qu'on avait avant et de la logique qu'il y avait derrière ces comportements. Ça n'existe plus. Quoi. Ça a disparu. Alors, c'est comme cette image de paroi de verre que je prenais au début. Là. C'est comme si là, il y avait la main qui butait sur une paroi transparente, infranchissable, et puis... d'un instant à l'autre, il n'y a plus rien du tout, mais c'est comme si la paroi n'avait jamais existé. Voilà ce que je peux témoigner après 10 ans sur le sujet.
Ouais, écoute, c'est passionnant. Vu qu'on parle du bonheur, il y a un sujet dont je voulais te parler aussi qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est l'état de flow. Donc pour celles et ceux qui peut-être ne situent pas exactement ce que c'est un peu l'état de concentration optimale qui nous permet de perdre la notion du temps, même perdre la notion d'espace et d'être vraiment happé par ce qu'on est en train de faire. Un état que personnellement j'adore, que je recherche beaucoup, mais que j'ai peu. Je ne sais pas si c'est du fait de nos distractions incessantes, si c'est... Voilà, il y a plein de facteurs, j'imagine. Et donc, comme je sais que tu travailles là-dessus et que tu m'avais dit être quasiment dans un état de flow permanent, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager comment tu étais avant ? Est-ce que tu avais déjà une prédisposition, entre guillemets, au flow ? Et si ce n'est pas le cas, bah, qu'est-ce que tu as mis en place pour déjà rendre ces moments plus fréquents, voire même permanents?
Gros et joli sujet. Donc, pour la faire très courte, non, je n'ai pas de prédisposition au flow, enfin, en tout cas, pas plus que n'importe qui. En fait, nous avons tous une prédisposition au flow et nous détruisons tous assez joyeusement et assez inconsciemment les leviers qui nous permettraient d'atteindre le flow. Voilà. Donc on est tous complètement responsables du truc, quoi. Voilà, moi comme toi, comme tout le monde. Donc maintenant que ça s'est dit, on peut le mettre un tout petit peu en contexte. Cet état de flow, ça a été d'abord étudié dans le sport, dans les années 60, auprès d'athlètes qui avaient des performances hors normes. Et donc ça a été bien documenté, ça. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui marchent sur l'eau, quoi, dans certains. En ce moment là, au moment où on enregistre le podcast, c'est l'US Open et il y a Caroline Garcia qui est en train de vivre une deuxième vie d'athlète, quoi. Donc je sais pas quand vous écouterez ce podcast, mais en tout cas ce sera toujours vrai, ça. Elle vit une deuxième vie d'athlète, quoi. Elle est en état de flow de dingue, elle gagne tout, elle réussit tout, etc. Donc, je ne sais pas si elle va gagner le tournoi, mais peu importe. Tout ce qu'elle fait, c'est juste dingue. C'est une nouvelle personne, quoi. Donc, ça a été beaucoup étudié. Il y a des leviers qui permettent d'être en état de flow dans le sport. Donc, moi, j'ai analysé ça. Moi, je ne suis pas spécialement sportif, mais j'ai été siroté ces recherches-là. Et je me dis, tiens, mais c'est marrant. Je suis à peu près sûr que c'est transposable dans les bureaux, en fait. Et j'avais déjà observé que dans ma vie professionnelle, avant de travailler sur ces états-là, j'avais quand même à peu près tous les jours, 15 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, où j'étais... un niveau de productivité, de facilité, de fluidité hors norme. J'étais dans ma bulle, un peu hors du temps, et d'ailleurs, je ne voyais pas le temps passer. Puis quand je sortais de ma bulle, je disais, ah tiens, il s'est déjà passé trois quarts d'heure. Et donc, je voyais que ça existait en fait dans ma vie. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent ont déjà vécu ça, au moins un quart d'heure, une fois de temps en temps, peut-être même un petit moment tous les jours. Et du coup, je me suis mis en tête d'aller transposer ce qui avait été creusé dans le sport, dans le milieu professionnel. J'étais déjà formateur en méthode agile à ce moment-là, donc c'est une activité qui m'a occupé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, mon centre de gravité, c'est sur la vente respectueuse et percutante. À ce moment-là, c'était les méthodes agiles, donc les méthodes de développement itératif dans les milieux informatiques. C'était des méthodes qui existaient depuis 40 ans, mais qui n'étaient pas du tout démocratisées à ce moment-là. J'ai fait partie des premiers qui ont poussé ces méthodes-là en France il y a 10-15 ans. Et je voyais bien que les méthodes agiles cochaient pas mal de cases. Les cases, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir avoir des grandes plages de concentration, sans aucune interruption. Le fait d'être parfaitement clair sur ce qu'on a à faire, que ce soit ni trop ambitieux, ni trop facile. Le fait d'obtenir du feedback à très haute fréquence, soit de ses pairs, soit du feedback en propre, de l'auto-feedback, etc. Donc il y avait quelques conditions. Et donc j'ai décliné ces méthodes agiles pour qu'elles soient utilisables et pour qu'elles alimentent l'état de flow dans n'importe quel contexte. Et évidemment, le premier obstacle anti-flow, maintenant que tu as compris ça, c'est évidemment les interruptions. Quoi. Mais bien, bien avant les obstacles. Hein. Donc, il faut savoir qu'une une interruption en minute, c'est quelques minutes de déconcentration, qu'on en soit conscient ou pas. Hein. C'est-à-dire que quand on est interrompu, c'est-à-dire une petite pop-up, la petite pop-up qui t'annonce un nouveau message WhatsApp sur ton ordi, que tu la regardes ou pas, ça te pète ta concentration. Ça la fait pas redescendre à zéro, mais ça la fait redescendre assez drastiquement, et tu ne retrouveras l'état de concentration que tu avais avant minimum 3 minutes après. Minimum. Quel que soit ce que va te dire ta petite voix de non, mais moi je suis meilleur que les autres, etc. Minimum. C'est toutes les recherches là-dessus, etc. Et maximum 30 minutes en fait. Enfin, ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps. Donc quand tu multiplies ces 3 minutes par le nombre d'interruptions que tu subis par jour ou qu'on subit par jour, waouh! La plupart des gens subissent 10, 20, 30, 40, 100, 200 interruptions par jour. Et donc, il y a des moments où il y a tellement d'interruptions en fait, que tu n'as même pas le temps de revenir à ton état de concentration d'avant où tu es re-interrompu. Mais ça fait des heures en fait, tous les jours où on a l'impression d'être au taquet. Et en fait, on est en train de mouliner comme un dingue, mais on est en train de tirer sur la corde de notre cerveau.
On n'est pas efficace, quoi.
Tu n'es pas du tout dans les conditions de l'état de flow. Donc, tu es en train de compenser, et tu as l'impression de faire plein de trucs, mais en fait, tu ne fais rien. Enfin, honnêtement, tu es très peu efficace, quoi. Voilà, donc petit à petit, j'ai découvert qu'il est possible en fait de créer l'environnement de travail qui coche toutes les cases pour avoir les conditions, pour avoir de l'état de flow permanent, en solo ou en équipe. Mais l'état de flow permanent, ça peut être, donc c'est moi, c'est ce que je vis, donc ce qui me permet de travailler relativement peu en fait. Enfin, je travaille une trentaine d'heures par semaine, et effectivement, quand je revois un peu de l'extérieur, je vois bien que j'arrive à faire ce que feraient plusieurs personnes, en fait, cumulées. Et Et ça, c'est pas un but en soi. En fait, le but en soi, c'est d'arriver déjà à sanctuariser une heure d'état de flow dans sa journée, puis une heure et demie, puis deux heures, puis deux heures et demie, puis trois heures, petit à petit, et d'arriver au final à une journée d'état de flow. Mais déjà avoir quelques heures d'état de flow dans sa journée, en fait, on fait tellement sa journée, c'est dingue déjà le saut que ça fait.
Je me demande si plus on cherche quelque chose, eh bien plus c'est pas difficile à obtenir. Enfin, j'ai l'impression que moi, depuis que j'essaye un peu d'être dans le flow, en fait, je ne suis jamais. Parce que du coup, je suis toujours sur le qui-vive à me demander si là, je suis en train de partir dans le flow ou pas, tu vois. Donc, j'arrive à atteindre des états de concentration sérieux. Et en effet, c'est quand je suis toute seule à bosser de chez moi et que alors, moi, je déteste être sollicitée. Mais voilà, la seule fois où j'ai vraiment... Enfin, il y a plusieurs fois que j'ai vraiment été dans le flow. En enregistrement de podcast et en écrivant, quand j'ai écrit mon livre. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le retrouver dans d'autres domaines de ma vie. Mais j'ai l'impression que maintenant que je suis à sa recherche, c'est de plus en plus difficile à obtenir.
Ok. Intéressant. Ce que ça m'appelle, ça, c'est que quand tu cherches quelque chose... quoi que ce soit en fait, hein, que ce soit le flow, que ce soit d'aller faire sauter une peur, que ce soit d'aller reprogrammer un comportement qui nous tire vers le bas, etc. Quelle que soit l'énergie en fait que tu mets dans cette recherche là, elle doit s'accompagner, de mon point de vue, hein, toujours dans mon aquarium, d'un deuil nécessaire. Hein. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que j'accepte de supprimer dans ma vie, dans mes habitudes, etc. pour faire de la place. Pour le nouveau comportement, pour cet mmh. état de flow, pour faire de la place à ma version suivante, quoi, si je suis en train de faire sauter une peur. Et tu vois, dans l'exemple de flow, j'ai accepté de faire le deuil du fait d'être au courant, dans l'instant, de tout ce qui se passait dans ma boîte. Et j'ai accepté d'attendre, par défaut, 24 heures, en fait, avant d'être au courant. Quoi que ça coûte, en fait. Parce que je savais que derrière, j'en tirais... Enfin, en tout cas, j'avais la croyance, la foi, l'intuition que j'en tirais largement du bénéfice. Et petit à petit, puis j'ai vu que mon état de flow, il y a des moments où il se dégradait. J'ai accepté de supprimer totalement les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, les feeds, les murs d'activité de réseaux sociaux. Donc, j'ai installé un petit plugin qui s'appelle Feed Eradicator ou un truc comme ça, ou News Eradicator, qui me permet d'avoir accès à LinkedIn et Facebook. De toute façon, j'y vais plus là maintenant. J'ai complètement coupé, mais LinkedIn, j'utilise beaucoup professionnellement. Il y a des milliers de personnes qui m'ont contacté sur LinkedIn là, ces dernières années, par exemple. Et donc, je n'ai accès, par défaut, jamais au mur, quoi. Donc, je peux y aller 5 minutes, mais ça me demande de reparamétrer le truc pour avoir accès au mur. Et donc, j'ai vu le saut quantique, j'ai à nouveau augmenté mon flow grâce à ce genre d'outils-là. Et par contre, bah, je fais le deuil, bah ouais, je ne suis plus vraiment au courant en fait, de ce qui se passe dans mon réseau et je perds sans doute plein d'opportunités, je perds plein de trucs et bon, bah, c'est pas grave, je sais ce que je gagne.
Ouais, parce que toi, c'est ce qui te fait plaisir et ce qui te nourrit, quoi.
Ouais, ça me nourrissait, hein, ça me nourrissait, mais ça me coûtait tellement fort que j'ai accepté d'en faire le deuil, toi. Ça me nourrissait aussi. Hein.
Ouais. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, mais t'as priorisé, quoi.
Ouais, ouais, j'ai vraiment accepté. C'est une notion de perte acceptable qu'on retrouve dans une technique d'entrepreneuriat qui s'appelle l'effectuation. J'ai accepté de supprimer ça et du coup d'en faire le deuil. Et c'était douloureux au départ. Et maintenant, pour rien au monde, en fait, je reviendrai en arrière tellement c'est bon.
Mmh. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour les personnes qui ont... Il y en a de plus en plus. Alors, je ne connais pas le nom en français. En anglais, c'est ADHD. En tout cas, des troubles de concentration, parce que je pense que, enfin, alors moi, je pense pas avoir ADHD. Par contre, je suis très sensible au bruit, et du coup, en fait, tu vois, si je bosse et qu'il y a une voiture qui passe, bah, je vais me concentrer sur la voiture.
Ouais, ouais.
Et ça me saoule. Donc, du coup, j'ai un casque anti-bruit. Mais tu vois, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes dans mon cas qui n'ont pas une concentration optimale tout le temps. Est-ce que là-dessus, tu aurais des petits conseils à nous partager?
Oui. Oui, j'en ai. Et puis, alors, il y en a qui vont peut-être ressembler à ceux auxquels tu t'attends, puis d'autres qui vont peut-être moins ressembler à ceux auxquels tu t'attends. Donc, on parle du coup d'hypersensibilité au sens large, là, hein, et ça concerne énormément de gens. Donc, moi, je suis hypersensible. Enfin, si on fait tous les tests, etc., je suis carrément dedans. Ma femme est dedans, mes enfants sont dedans. Et ça concerne beaucoup de gens, en fait. Et ça concerne aussi beaucoup de gens qui se posent des questions. Donc, si vous vous posez des questions, c'est quand même un indice que vous êtes peut-être concerné aussi.
Et, est-ce que tu pourrais peut-être faire la différence entre hypersensible et haut potentiel? Parce que je sais que, voilà, il y a des gens qui se posent la question et ce n'est pas forcément la même définition.
Oui, c'est pas tout à fait la même définition. Honnêtement, que vous soyez concentré par l'un ou par l'autre, les outils, les approches et ce à quoi il faut être vigilant, c'est à peu près la même chose. Mais du coup, il y a des histoires qui vont être plus émotionnelles, d'autres histoires qui vont être plus intellectuelles, d'autres histoires qui vont être un peu plus les mix. C'est quand même très très protéiforme cette hypersensibilité et le côté haut potentiel, c'est-à-dire que ça prend plein de formes. Et moi, ce que je regarde, c'est les signes cliniques en fait. Des gens qui se posent pas mal de questions, des gens qui font des transitions de vie où on appelle énorme à faire des transitions de vie, c'est-à-dire à pas forcément suivre les rails sur lesquels ils ont été mis quand ils n'avaient pas vraiment le choix. Des gens qui vont avoir des réactions relativement fortes, c'est-à-dire qu'ils vont être ou des modes marionnettes relativement fortes. C'est-à-dire il y a des moments où c'est comme s'il y a une autre personne à l'intérieur d'eux qui prenait complètement les commandes et qui les faisait partir dans des états émotionnels assez avancés ou dans des comportements où c'est pas eux. Quoi. Tout ça, c'est quand même des signes qui se cumulent, qui sont assez forts, comme quoi vous êtes concerné par l'hypersensibilité ou le côté au potentiel. Et c'est pas une histoire d'être hyper fort, en fait, ou pas. Ça, c'est quand même très, très réducteur. Quoi. Parce que souvent, on est hyper fort. Enfin, les hauts potentiels, la plupart du temps, en fait, ont été canalisés, malgré eux, dans des secteurs qui sont pas forcément ceux dans lesquels ils sont hyper forts. Du coup, ils n'ont pas encore forcément trouvé leur zone de génie. Et donc, les conseils, c'est donc le premier conseil, mais qui n'est pas directement sur la problématique du fait de se concentrer, c'est que dans l'immense majorité des cas, les gens qui sont soit au potentiel, soit hypersensibles, enfin qui sont concernés par cette thématique-là, ont subi cette thématique depuis leur enfance. Et du coup, c'est quelque chose qui a été encombrant, mais c'était limite un handicap, en fait, depuis qu'ils sont nés, qu'ils en soient conscients ou pas. Donc, c'est quelque chose qui trimballe comme un boulet, quoi, comme un sac à dos, là, où ils disent « Putain, mais c'est gênant, en fait, ce truc-là, j'en veux pas dans ma vie. » Et ça leur a souvent été reproché, sans qu'ils comprennent pourquoi, parce qu'en fait, c'est leur mode de fonctionnement. Et ils ont dû souvent compenser, à l'école en particulier, parce que l'école n'est pas du tout adaptée pour ces profils-là. Et du coup, ils se sont inventés des comportements, des habitudes, etc., qui permettent de compenser cette hypersensibilité. Et ils sont un peu interdits de lui faire une vraie place, c'est-à-dire d'accueillir cette caractéristique-là dans leur vie, et de dire, en fait, c'est cool, parce que ça me donne accès à des capacités, etc., qui sont géniales, en fait. Et donc, le premier type, c'est d'accepter, en fait, et de reconnaître en quoi c'est cool d'avoir toutes ces caractéristiques-là, même si c'est pas forcément toujours évident de faire le lien entre toutes ces caractéristiques, mais le fait d'être hypersensible, en fait, ça permet d'avoir une qualité de relation avec des gens qui est exceptionnelle, pour peu qu'on mette quelques limites et qu'on mette un peu de respect dans tout ça. Ça permet d'être passionné, de vivre de ses passions, ça permet de faire des choix, de vivre une vie qui est hyper intense, etc. Donc, c'est génial, en fait, pour peu qu'on accepte d'y laisser de la place. Et du coup, ça veut dire que quand le camion passe et te déconcentre, tu peux le voir comme putain c'est chiant, le camion passe, ça me déconcentre, j'aimerais quand même être une personne qui soit pas déconcentrée par un camion. Et tu peux le voir aussi en disant ah mais oui, mais en fait ça c'est la queue de la comète quoi, c'est un petit peu la longue traîne de tout ce qui fait que je suis Louise et que en fait et que je vis la vie qui m'appelle. Et ben dans les petits désagréments, il y a le fait que ben, en fait du coup je suis déconcentré par un camion qui passe, et est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas, d'accord. Donc premier type, vraiment de faire une vraie place à ces caractéristiques-là dans notre vie, plutôt que de se flageller, de dire « putain, ça fait chier ». Deuxième type, de créer un environnement de travail, si on parle du travail, qui tienne compte de ces contraintes-là, plutôt qu'un environnement qui encourage ces contraintes. Et donc un environnement de travail, ça peut être moi je crois beaucoup aux rituels, hein. J'ai pas mal de rituels dans ma vie que je fais bouger tout le temps, c'est pas immuable, mais en tout cas ils m'aident énormément. Et donc de créer des rituels qui font qu'il n'y aura pas de concentration, de créer un environnement de travail qui fera que je sais pas moi, si les camions ils passent plutôt à telle heure, en fait tu choisis de faire un peu autre chose que d'être hyper concentré à telle heure. C'est parce que j'en sais rien, moi si c'est à Paris, que les livraisons c'est le matin, début de matinée jusqu'à 9h-9h30, tu décides de faire les trucs à très très forte valeur ajoutée à partir de 9h30, parce que tu auras remarqué qu'il y a moins de camions qui passent. Enfin, tu as des trucs comme ça. Mais vraiment, tu vois, d'adapter ton environnement et de ciseler ton environnement pour faire en sorte que ces désagréments-là aient le moins de prise possible dans ta vie. Sur les interruptions, donc, évidemment, j'ai toute une méthode qui est construite là-dessus, de faire en sorte que, par défaut, on ne s'interrompt pas. Quoi. Donc, ça demande de créer des petits rituels en équipe, petits algorithmes, en fait, pour savoir mais est-ce que j'interromps, est-ce que j'interromps pas, et pour évacuer les interruptions à un moment où ça va déranger personne. C'est comme si on allait les concentrer tout au même moment. Ça, c'est une pratique des méthodes agiles, à travers un stand-up, c'est-à-dire un petit point du matin, dans lequel on va faire une chasse d'eau de toutes les interruptions potentielles de la journée. Et ça ne va pas évacuer toutes les interruptions, mais ça va en évacuer 90%. C'est juste monstrueux, en fait, déjà.
Non, c'est parlant et j'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent. Écoute, il y a un dernier point que je veux aborder avant de passer aux petites questions de la fin. Tu nous as parlé de la zone de génie, donc je pense que peut-être tout le monde n'est pas familier avec ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et surtout comment tu as trouvé la tienne ? Parce que ouais, c'est ce à quoi tout le monde aspire au final.
Mais gros sujet aussi, cette zone de génie, c'est... on la voit par contraste, en fait, cette zone de génie. Moi, je suis persuadé que tout le monde... Enfin, quand je dis je suis persuadé, c'est toujours hein, là où j'en suis de mes recherches, dans mon aquarium, dans mes croyances, etc. Je pense que tout le monde a des zones de génie, a une ou plusieurs zones de génie. Je pense aussi que l'immense majorité des gens, y compris les hypersensibles au potentiel, etc., passent une grande partie de leur vie à côté de leur zone de génie. Voilà, une grande partie de leur journée, même une grande partie de leur vie de tout court. Du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on les repère. Moi, après avoir pas mal bossé dessus, je passe la quasi-totalité de mes journées non seulement en état de flow, mais en plus dans mes zones de génie. Mais c'est assez récent, en fait. Jusqu'à il y a 6 mois, c'était pas le cas. Je passais quand même encore une partie de mon temps en dehors de mes zones de génie. À quoi ça ressemble une zone de génie ? Il y a quelques caractéristiques, des espèces de signes cliniques qui ne trompent pas trop. C'est un sujet sur lequel on est bon et souvent reconnu comme bon. On est performant, on est percutant, etc. Et puis les gens disent « Ah tiens, mais vraiment, ça a l'air d'être ton truc. Hein. » Okay. Mais ça, c'est pas assez comme définition. C'est quelque chose qui nous apporte de l'énergie. C'est-à-dire que quand on fait cette tâche-là, à la fin, on a plus d'énergie qu'au début. Ça, c'est un signe clinique qui ne trompe pas du tout. Et donc, ça différencie la zone de génie de la zone d'excellence. Zone d'excellence, on est tout aussi bon, tout aussi reconnu comme étant bon. Par contre, quand on le fait, ça nous coûte un peu d'énergie. Une fois qu'on a terminé, on ressort avec un peu moins d'énergie qu'au début. Et puis ensuite, on a les zones de compétence et les zones d'incompétence. La zone de compétence, je sais faire. Honnêtement, je suis pas forcément hyper bon là-dedans. Peut-être reconnu comme étant bon, mais honnêtement, ça me nourrit pas du tout. Je rêve de le déléguer, ce truc-là. Et zone d'incompétence, où c'est les trous noirs d'énergie, quoi. C'est, tu vois, le monde diminue d'énergie quand tu travailles sur ces trucs-là, quoi. Où c'est toxique. Enfin, tu perds des années de vie quand tu fais ça. Et donc, la première étape, c'est d'accepter que ces zones existent et d'accepter que, en fait, y a des trucs que tu fais dans ta journée. N'importe quoi que tu fasses, ça se répartit dans une de ces zones. Ça demande aussi d'accepter pour certains que, ben, en fait, ils sont passés jusqu'à maintenant toute leur vie en dehors de leur zone de génie, hein, ce qui est très douloureux comme prise de conscience souvent. Et puis d'avoir une espèce de caméra qui t'auto-observe sans te juger en permanence. On va te dire, attends, ça, oulala, effectivement, quand je viens de faire ça, là, et je ressors avec une patate, un truc, c'est pas si courant que ça. Donc ça, tu mets ça dans la petite case, puis tu l'observes, tu le notes, tu empiles, etc. Et à force, tu arrives à voir ce qui est dans tes zones de génie et ce qui est seulement dans tes zones d'excellence.
Ça me paraît un exercice super à proposer aux personnes qui nous écoutent. Écoute, je vais te passer aux petites questions de la fin, qui sont des questions un peu plus perso et de recommandations. Déjà, est-ce que s'il y avait une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous le partager ?
Donc, livre d'André Charbonnier, donc sur toute la thématique des peurs, livre d'André Charbonnier qui s'appelle « Plus de peur que de mal », peur au pluriel. C'est le fameux livre qui est sous-titré là, « Entre nous, le bonheur, il n'y a que nos peurs ». Très bonne lecture pour commencer. Et pour aller comprendre un petit peu la mécanique de construction des peurs auxquelles on est tous confrontés hein, dans l'enfance. Et moi, en tout cas, ça a été une bonne révolution de prendre ce bouquin-là. J'ai utilisé derrière les méthodes. Ma femme s'est formée à ces méthodes. Elle est en train de les approfondir encore. Top. Ça, sur le management, il y a un bouquin qui m'a énormément influencé qui s'appelle Reinventing Organizations. C'est le titre anglais, mais c'est la version française. Hein, c'est un bouquin qui commence à être assez connu de Frédéric Laloux. Il y a besoin de relire. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une organisation hiérarchique à une organisation peu ou pas hiérarchique, hein, indépendamment du fait qu'on aille jusqu'à des boîtes qu'on appelle libérées, entre guillemets. Bon, il y a un peu de. Bon, il y a beaucoup de marketing qui a été mis autour de ça. Ce n'est pas forcément un but en soi. Ça, c'est pas mal. Et la ressource, après, je vous invite à aller trouver la vôtre, mais c'est la personne. Pour moi, notre vie commence quand on se fait accompagner, quoi. C'est une espèce de mantra que j'ai. Moi, je suis accompagné par 5 personnes, là. C'est pas toujours les mêmes, mais tu vois, il y a 5 personnes qui me coachent, me débullshit, etc. en continu. Et donc, allez trouver la personne avec qui vous allez commencer si vous n'êtes pas encore accompagné. Qui que ce soit, en fait. Mais même que ce soit une personne ultra pertinente ou juste une personne qui va vous permettre de faire un petit bout de chemin. Donc moi, évidemment, j'en connais, j'en ai plein en stock, mais il y en a des milliers. Hein, mais par contre, il faut commencer. Voilà, donc aller trouver cette personne, ça, c'est la bonne rencontre. Mmh. C'est comme une espèce
et investir en soi. C'est vrai que c'est pas un réflexe très français. Ouais.
Ouais, moi, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros. Enfin, faut quand même en mettre les choses à la Wilson, quoi. J'ai dépensé du temps, beaucoup, parce que j'ai fait un travail de débroussaillage. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, c'est pour éviter à ceux qui veulent faire ce chemin de faire autant de débroussaillage que j'ai eu besoin de faire. Ces méthodes étaient très très peu connues hein, quand j'ai commencé, et là, elles commencent à émerger. Du temps, l'énergie, et puis j'ai investi des dizaines de milliers d'euros. Enfin, je pense qu'en tout, j'ai investi 50 000 euros dans le travail sur moi, quoi, en quelques années. Mmh. 10 ans, enfin, c'est pas... Tu vois, par rapport à un budget de vacances, c'est pas complètement déconnant, quoi. Mais donc, ça m'a, entre autres, demandé de moins partir en vacances, voire d'arrêter de partir en vacances pendant quelques années. Et j'ai pas... Enfin, ouais. On peut se dire... je complète là-dessus, parce qu'on peut se dire, oui, mais c'est parce qu'il a de la thune, etc. Non, j'étais au RSA. Tu vois, mes deux premières boîtes, j'étais planté. À la fin de mes deux premières boîtes, j'étais au RSA. J'étais dans la merde, quoi. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis dans une énorme abondance, effectivement. Enfin, en tout cas, ce que je perçois comme étant une grande abondance, mais j'ai dépensé ces sommes-là à des moments où, oui, ça me du coup demandait de ne pas partir en vacances. Quoi.
Ouais, t'as investi en toi. Bah écoute, super, merci beaucoup pour ce retour. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur InPower, qui est-ce que ce serait ?
Ça pourrait être ma femme, qui je pense a beaucoup à partager auprès des... tu l'as rencontré. Beaucoup à partager auprès de ses profils au potentiel et hypersensibles. Et puis qui a un parcours de libération traumatique... très dense aussi, enfin, c'est dingue, mmh. C'est gestuel, c'est j'ai énormément d'admiration pour ce qu'elle a fait, quoi. Et pour le côté guerrier qu'elle a, enfin, l'audace qu'elle a, enfin, moi je me sens un peu timide en fait, côté audace, alors qu'on me dit bien vu de l'extérieur que j'ai pas l'air d'être timide quoi, sur ces sujets de développement personnel, oui ça c'est une bonne piste.
Ok. Génial. Écoute, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? J'ai une petite idée de ta réponse, mais je vais te laisser la dire.
Oui. Prendre le pouvoir de sa vie, ça signifie, donc évidemment, je vais mettre le. Enfin, si je le condense, si je le boil down, comme disent les Américains, là, c'est vraiment, je fais bouillir pour garder juste le cœur du jus. C'est cette histoire sur les peurs, enfin, d'accepter. Et reconnaître ses peurs, d'accepter de travailler dessus les unes après les autres, comme un fil conducteur. Quoi. Enfin, j'ai vraiment cette croyance que derrière chaque peur se cache un énorme trésor. Enfin, je l'ai vécu du coup une dizaine de fois chez moi, je l'ai vu chez les autres. Donc pour moi, prendre le pouvoir sur sa vie, c'est en fait reprendre le pouvoir sur ses peurs. Et ça me semble être le chemin le plus court et le plus puissant. De là où j'en suis de mes recherches.
Super. Écoute, merci beaucoup Nicolas pour cet échange hyper enrichissant. Je suis très contente d'en aborder beaucoup de sujets qu'on n'avait pas forcément abordé avant sur InPower. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
C'est LinkedIn le bon point d'entrée. Et ce que je vous invite à faire, si ça résonne, ce que j'ai partagé, si ça résonne de près ou de loin, en fait, je vous invite juste à me connecter sur LinkedIn. Alors, si vous pouvez ajouter un petit mot pour dire que c'est via InPower, ça m'aidera. Et je vous répondrai, hein, je réponds à tout le monde. J'y consacre beaucoup de temps, en fait. Et puis, vous pourrez me dire ce qui a résonné. Et puis, j'essaie de répondre aussi autant que possible à toutes les questions qu'on me pose, en fait. Je partage beaucoup dans ma newsletter, etc. Mais le bon point d'entrée, en fait, c'est qu'on reste en lien sur LinkedIn, ce qui me semble être le plus pragmatique, en fait. Voilà, donc LinkedIn,
ouais,
Nicolas
okay,
et Lyon. Ça se trouve bien. Et alors, je sais que beaucoup de gens me disent à posteriori, oh, mais tu sais, j'ai vachement hésité en fait à cliquer sur le bouton parce que je n'osais pas, il y avait ma petite voix qui me disait, mais non, mais tu vas le déranger, etc. Non, en fait, je vous invite vraiment à le faire. Enfin, si ça vous parle, si ça résonne, je serais vraiment ravi qu'on soit en lien de cette manière-là. Voilà. Et je pourrais vous partager d'autres trucs. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, ce sera peut-être un autre podcast, c'est les états modifiés de conscience. Et je me surprends en fait pas du tout en avoir parlé parce que c'est quand même un éléphant au milieu du village. Dans mes recherches sur les traumas, sur les peurs, etc., j'ai creusé ce qu'on appelle en Europe les états modifiés de conscience, ce qu'on appelle dans des sociétés plus anciennes ou en Asie les trans. Et aujourd'hui, quand je libère une peur en 10 minutes, c'est parce qu'en fait, j'ai accédé à ces états-là et du coup, j'ai développé une capacité de me mettre en transe. Et ça me semble être un territoire extrêmement peu connu en Europe, là, et d'une puissance qui est juste dingue pour aller travailler ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment mon terrain de jeu du moment en recherche perso.
J'aurais mis la bandée, mais la prochaine fois, on fera une partie de
ça. Va.
Trop cool. Merci beaucoup, Nicolas, et à bientôt, j'espère.
Merci à toi, Louis, c'est un énorme plaisir.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous êtes des vrais, et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en envoyant un message à Nicolas Hignon, H-E-2-N-I-O-N, sur LinkedIn. Il sera ravi de vous ajouter. Et en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant @inpowerpodcast et @mybetterself pour que je puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.